Figaro Radio. Le Buzz TV. Damien Canivez et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde.
Salut Damien.
Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un comédien qui s'apprête à interpréter l'un des plus grands romanciers de l'histoire de France. Et pour cause, il est le seul écrivain ayant reçu deux fois le prix Goncourt. Bonjour Charles Berling.
Bonjour Damien, bonjour Mathilde.
Soyez le bienvenu sur ce plateau. L'Enchanteur, c'est donc le titre du téléfilm que France 2 diffuse ce lundi 12 février à 21h10. Vous y interprétez le rôle de Romain Gary, célèbre écrivain pour de multiples œuvres. Hein. On peut en citer quelques-unes.
Et Gary
et absolument, vous avez raison. Les Racines du Ciel, La Vie devant soi. Alors, hormis la barbe, qui c'est vrai n'est pas très opulente, cet écrivain ne ressemble pas vraiment à Merlin. Pourquoi est-il qualifié ici d'enchanteur, ce Romain Gary?
Ah ben, parce que d'abord, ça fait référence à un de ses romans. Et ensuite, je dirais que c'est parce que c'est quelqu'un qui a su manier le mensonge, donc l'enchantement, l'hypnose, ouais. Je dirais, qui a dû, et pour atteindre une certaine vérité, en tout cas, pour ne pas se résigner à ce qu'on disait de lui.
Est-ce que c'était un manipulateur, Romain Gary?
Un petit peu, bien sûr, mais c'est un manipulateur, je dirais, pour moi, qui est en même temps profondément honnête, puisque c'est toujours pour arriver. Enfin, il a toujours été extrêmement fidèle à ses valeurs les plus profondes. D'abord, quand il est à sa mère, pour commencer, ce qui est très beau, et ensuite, il a été un grand résistant, il a été consul, il a été un immense écrivain, et donc il a toujours voulu que la vérité de sa littérature soit appréciée pour ce qu'elle était. Et quant à le Romain Gary, disons, vieillissant, se retrouver à avoir une réputation d'auteur vieillissant,
c'était insupportable pour
lui. C'était insupportable pour lui. Alors, le subterfuge, il avait déjà fait d'autres.
Il a eu d'autres pseudonymes.
Mais il faut savoir que c'est aussi une génération de gens qui ont dû se cacher en permanence.
Absolument.
Comme immigrés, comme résistants, Donc ça fait qu'on ment, mais entre guillemets, pour la bonne cause, pour moi.
Ouais.
Après, c'est vrai que grâce à Émile Ajar, il a retrouvé une jouvence absolument magnifique. Donc ça, c'est... Enfin, moi, je trouve qu'il est génial.
Ouais.
J'ai compris, quand on tournait le film, et en parlant avec différentes personnes, dont Anna Pavlovitch, par exemple, sa nièce, qui me racontait son regard de jeune fille, de petite fille de 8 ans sur cet homme, qu'elle adorait d'ailleurs. J'ai compris que son arnaque, sa dissimulation derrière un pseudonyme, avait été très, très, très mal pris. C'est-à-dire, les gens n'aiment pas être floués.
Ils n'aiment pas être trompés,
ils n'aiment pas. Donc, on lui en a voulu beaucoup. Mmh. Alors que je trouve, moi, que, au fond, c'est quelque chose de génial, surtout pour quelqu'un qui a voué sa vie à la fiction. On ne peut pas être plus en rapport avec son œuvre que s'y inscrire totalement. N'oublions pas qu'il a absolument tenu à ce que le secret soit gardé jusqu'à après sa mort, où il a fait paraître vie et mort d'Émile Ajar pour tout dévoiler.
Pour tout dévoiler, absolument. Sa vie est romanesque à elle seule. On va en parler dans quelques instants avec vous, Charles Berling, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les infomédias présentés aujourd'hui par Mathilde Seiffer, avec la nouvelle accusation de Judith Godrèche.
Oui, alors l'actrice a révélé sur France Inter avoir été abusée sexuellement par Jacques Doyon. Judith Godrèche dénonce des faits qui se sont produits au domicile du réalisateur, mais également sur le tournage du film La fille de 15 ans, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Je vous propose d'écouter une partie de son témoignage.
Il a engagé un acteur qui s'appelle Rüdiger Hauer. On a commencé le tournage et il l'a viré. Et il s'est mis à la place. Et puis après, à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain. Bon. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu et il me pelote et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation...
Jane, c'est Jane Birkin.
Ouais.
Judith Godrèche ajoute ensuite que Jacques Doyon voulait exactement la même chose que le réalisateur Benoît Jacquot, contre qui elle a également porté plainte pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans.
Alors de nombreuses actrices n'hésitent plus à prendre la parole pour dénoncer ces gestes déplacés, ces harcèlements sexuels dont elles ont pu être victimes dans les années passées. Est-ce que vous sentez que les comportements des hommes sont en train de changer sur les plateaux de tournage, Charles Berling?
Oui, bien sûr, ils sont en train de changer et tant mieux. Je crois que il est très important que la parole des femmes se libère, mais pas d'ailleurs que des femmes, de toute personne qui a été victime d'abus sexuels, parce qu'il y a aussi des garçons. Hein. Mais c'est fondamental, oui, absolument. Moi, je crois que on peut comprendre d'ailleurs que cette parole, elle est compliquée et en plus, si elle est mal entendue. Donc là, c'est tout à fait important que cette parole se libère.
Vous avez été vous-même témoin de gestes déplacés lors de vos précédents tournages, de comportements inadaptés sur...
J'ai pu être témoin et j'ai pu moi-même être... connaître ça en tant qu'homme.
En tant qu'homme aussi.
Ah oui, mais j'ai pu le vivre avec des réalisatrices. Après, j'ai réglé le problème moi-même.
Oui.
Mais quand on est acteur ou actrice, forcément, on est dans un rapport à la réalisation, au réalisateur ou à la réalisatrice, dans un rapport de, disons, de non pas d'objet, mais il y a quelque chose comme un objet du désir, comme disait Buñuel. Donc il peut y avoir quelque chose comme de la part de la personne qui a ce pouvoir-là de vous mettre en scène, une tentation d'outrepasser son domaine.
Et de vous diriger de façon assez malsaine. Quand vous dites que vous avez connu ça veut dire...
C'est-à-dire de sentir qu'il y a une pression un peu déplacée, c'est-à-dire qui n'est pas seulement professionnel.
Et quand vous dites que vous avez connu ça vous-même de la part d'une réalisatrice ou plusieurs réalisatrices, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que ce sont des femmes qui ont eu des gestes déplacés envers vous, très concrètement ? C'est ça que ça veut dire ?
Oui. Mais encore une fois, je n'en parle pas parce que j'ai réglé le problème à ce moment-là en parlant avec ces personnes
et c'était facile à régler.
S'expliquant. Ouais. Vous voyez, pour moi, ça a été cette chance-là. Mais après, je peux comprendre, et encore plus quand on est dans le bas âge, que ça soit. Parce que là, c'est plus problématique. Ouais. À 14-15 ans, forcément, on est dans une situation de vulnérabilité beaucoup plus grande. Moi, j'étais un adulte complètement. Vous voyez
C'était plus facile pour vous de prendre la parole à ce moment-là et puis de régler vous-même le problème.
De défendre, de dire non, voilà, remettons les choses en place, quoi. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas là pour ça.
Très bien. Eh bien, ça, c'est dit. Merci beaucoup. On poursuit ces news médias, Mathilde, avec le coup de gueule de Mimi Mathy.
Oui, alors depuis quelques temps, un point d'interrogation est posé sur la santé de l'actrice. Récemment, c'est le journal France Dimanche qui a assuré que l'état de Mimi Mathy se serait dégradé au point de ne pas pouvoir se rendre au concert des Enfoirés ou encore de reporter ses tournages pour Joséphine Ange Gardien. Mimi Mathy, aliassée par ses affirmations, a mis les choses au clair sur ses réseaux. Je cite « À tous ceux qui me voient moribonde, paralysée ou même morte, je vous rassure, je vais plutôt bien. » Elle a poursuivi en demandant aux journalistes d'arrêter de raconter n'importe quoi et de vérifier leurs sources.
Ça, les rumeurs, c'est la rançon de la gloire. Quelque part, vous avez déjà été victime de fausses informations, vous, Charles Berling. Est-ce qu'on a déjà... on vous a déjà vu en mauvaise santé. Est-ce que la presse people vous a déjà suivi dans la rue?
Oui, ça m'est arrivé.
Ça vous est déjà arrivé. C'est vrai. Vous attaquez systématiquement, d'ailleurs.
Ça ne m'intéresse pas beaucoup, non.
Oui, c'est vrai.
Oui, ça m'est arrivé, je crois, oui. Mais...
Ouais. Après, c'est la notoriété.
D'attaquer parce que c'est le problème des... Et encore des plus, je dirais, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose peut partir et vous ne maîtrisez rien et on dit des choses sur vous. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est totalement faux, mais il faut encore... faut-il prouver ce qu'on dit quand on accuse ou faut-il prouver ce qu'on dit pour dire qu'on est innocent? Ça, c'est toute une vaste question qui concerne le droit français ou le droit anglo-saxon, qui sont différents. Enfin bref, bon.
Absolument.
Mais une rumeur. J'ai joué Dominique Baudis, par exemple.
Oui.
Et Dominique Baudis, il est mort de cette rumeur. Dans les journaux, quand on a dit de lui qu'il était le proxénète de tout le Sud-Ouest.
Absolument.
Et que après, je l'ai vu, moi, puisque je l'ai joué. Donc j'ai vu Dominique Baudis. J'ai vu dans ses yeux que quelques personnes qu'il croise dans la rue ou dans un dîner ou n'importe où dans la vie sociale, disons, eh bien, toute personne le regardait en disant « il n'y a pas de fumée sans feu ».
Oui, c'est ça. Il y a toujours une présomption de culpabilité.
Donc il y a toujours une suspicion et je voyais que cet homme était détruit, mais vraiment détruit par les rumeurs dont il avait été victime. Donc les rumeurs...
Il faut s'en méfier.
Je dis aux gens, c'est pour ça qu'il faut faire attention aujourd'hui, quand on dit quelque chose, assurons-nous que... On en a des preuves.
Ouais.
C'est pas seulement parce que quelqu'un vous a dit. Vous savez, ça va vite. Hein.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Plus que jamais, ça va vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Et on jouait ce magnifique film de Francis Giraud, là, pour la télé, Dominique Baudis, notable donc coupable. j'avais été très, j'avais compris le fonctionnement, les processus d'une rumeur et comment elles peuvent arriver à détruire quelqu'un.
Mmh. Allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 1.
Oui, et ça concerne le gagnant de la dernière saison de Star Academy, le jeune Normand de 21 ans, Pierre Garnier, se place en tête des ventes France avec son single Second été, sorti dans la nuit de mardi à mercredi. Les internautes avaient pu découvrir la chanson en avant-première durant les quotidiennes et sur le prime de la finale. Et finalement, en quelques heures, son morceau a devancé Popcorn Salé de Santa et Flower de Miley Cyrus.
Est-ce que vous regardez la Star Academy d'ailleurs? Est-ce que vous regardez les émissions de divertissement en général?
Non, mais je ne regarde pas la télé déjà. Donc
vous ne regardez pas la télé?
Non, je lis beaucoup, je sais pas, j'ai...
Ouais.
Je regarde la télé, mais aujourd'hui, disons avec Internet, bah justement, on peut choisir ses programmes, en fait.
Mmh. Oui, vous regardez
faire
des fictions
replay,
quand même, rassurez-moi, Charles
Garnier. Donc, il y a ça qui est passé, alors je vais le regarder.
Vous regardez des séries quand même, non? Vous regardez des téléfilms?
Très, très peu. Vous savez, j'ai relu Tolstoï, là, et je dois dire que ça, c'est une grande série.
Bon, donc, ah oui, pour vous, oui.
Pardon, je suis un peu vieillot, mais moi, franchement... j'aime l'image. Hein, et
C'est votre métier.
Les séries, j'en fais d'ailleurs des séries, et je les regarde avec plaisir. Ou j'ai des copains qui adorent les séries. Alors parfois, il m'arrive de rester jusqu'à 4h du matin chez eux pour regarder. Ouais. Quoi, mais sinon, c'est pas trop mon. Moi, j'aime le théâtre, j'aime les œuvres qui. Je sais pas où je. Je suis comme spectateur, pas seulement un consommateur, mais que j'ai un rapport actif.
Qui vous
par exemple, la lecture d'un livre. Bah, on parle de Romain Gary. Romain Gary, je l'avais lu plus jeune. Je l'avais lu, disons, dans une zone intermédiaire. Et là, grâce à ce film, je l'ai relu beaucoup. Ouais. Et pour moi, ça descend en moi. C'est physique, c'est corporel, quoi. La lecture, c'est plus que l'image. Parfois, peut vous laisser dans un rapport un peu trop passif et de consommation avec une œuvre.
Alors ça s'appelle L'Enchanteur, c'est diffusé sur France 2 ce lundi 12 février en première partie de soirée, donc vous vous glissez dans la peau, on le rappelle, de Romain Gary. La toute première question qu'on voulait vous poser de cette séquence, pour quelle raison avez-vous accepté de jouer ce rôle déjà?
Parce que c'était très bien écrit par Maria Pourchet et François-Henri Désérable. C'est-à-dire que moi, j'aime tellement Gary que je n'aurais pas risqué, disons, de l'interpréter dans de mauvaises conditions. Mais quand vous recevez le scénario que j'ai reçu, là, je me suis dit, waouh, c'est très très bien écrit par des jeunes gens qui sont absolument passionnés par Romain Gary et qui sont au bon endroit. Romain Gary est un auteur qui provoque chez ceux qui le lisent beaucoup, disons, une passion. Un amour profond, parce que il y a chez lui une humanité qui est certes angoissée, torturée, qui développe un humour absolument cinglant, magnifique, mais qui cette humanité, à travers ses livres, il vous la transmet. Quand vous voyez La vie devant soi, bon, de Émile Ajar pour le coup, cette Rosa, ce Momo, ce sont des personnages qui sont extrêmement populaires. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment et toute l'aventure de sa vie, elle est une aventure absolument romanesque déjà en soi. Elle est extraordinaire. Et donc on ne peut pas rester insensible à Romain Gary. N'oublions pas qu'il a, par exemple, écrit Les Racines du ciel en 1956, que c'est donc un des premiers romanciers à écrire de façon extraordinaire sur l'écologie. Mmh. En 56, vous vous rendez compte? Donc, ça fait partie aussi pour moi de ces auteurs. Là, j'ai travaillé récemment autour de textes d'Anna Arendt, ou bien Maria Montessori, ou des textes comme ça pour des œuvres qu'on fait au théâtre. Eh ben, Romain Gary fait pour moi partie de ces visionnaires. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on est maintenant déjà en 2024.
Oh,
c'est dingue. Eh ben, je dois dire que je lis les œuvres de cet auteur, Romain Gary, en me disant il avait tout compris, déjà, très tôt. Et il est vrai, d'ailleurs, que pour avoir, encore une fois, Anna Arendt le dit très bien, mais la guerre de 40-45 a posé des choses irréversibles dans l'humanité et dans le sort de notre monde, y compris, d'ailleurs, écologiquement.
Bien sûr, ce sont des précurseurs.
Et alors, vous, personnellement, avant d'interpréter le rôle de l'écrivain, vous connaissiez sa vie sur le bout des doigts?
Non, pas du tout. Je l'avais fréquenté à plusieurs périodes de ma vie. Donc oui, évidemment, j'avais. Et en plus, lui-même, dans son œuvre, même si c'est un romancier, donc il se masque aussi, n'est-ce pas? Mais il apparaît.
Oui.
il apparaît beaucoup. C'est-à-dire que quand on lit un grand auteur comme ça, on va au fond de lui. Et c'est là où j'ai d'ailleurs puisé, moi, l'inspiration pour comprendre à la fois la profonde détresse dans laquelle il pouvait être et en même temps cette joie de vivre permanente, cette envie de vivre. C'est pas parce qu'on est un peu angoissé par la vie qu'on n'a pas, au fond, accès aux multiples joies, y compris dans ses rapports aux autres, dans son rapport à l'art, dans ses rapports à tous ses amis, à ses amours, enfin. Bref, un homme pour moi tout à fait admirable.
Alors Charles Berling, je vous propose de regarder cette image. On vous voit aux côtés du vrai Romain Gary et on peut constater que la ressemblance, elle est assez frappante quand même au niveau de la barbe, au niveau des traits du visage aussi à certains endroits. Est-ce que le fait d'avoir travaillé cette ressemblance physique vous a permis aussi de mieux vous imprégner de ce personnage ?
Oui, mais je fais un travail d'acteur, donc je ne fais pas un travail d'imitateur ou de copiste. Il y en a qui le font très bien, moi pas du tout.
Oui.
Moi, j'ai regardé des images, des vidéos, des télés avec lui. J'ai lu beaucoup, j'ai vu des personnages, j'ai lu des livres, disons, qui parlent de sa vie. Mais après, j'oublie pour essayer de comprendre au fond où est le poids de cet homme, et puis forcément à mon âge aussi on a, enfin voilà, je ressens des choses. C'est pas pour rien que quand on le lit on se sent très concerné.
Oui.
Donc moi aussi, et donc c'est avec cette pensée un peu universelle que je l'aborde.
Et alors, Romain Gary a été aviateur, résistant, écrivain à succès, puis écrivain décrié. À quelle étape de sa vie se trouve-t-il dans cette fiction ?
Ah, il se trouve à une étape tout à fait importante, c'est-à-dire on est en 75, c'est 5 ans avant sa mort, et en même temps, c'est un homme qui a passé la soixantaine, qui est vieillissant, mais qui ne veut pas accéder, enfin qui veut aller plus loin. Donc il a créé Émile Ajar. Émile Ajar a beaucoup de succès, et là en 75 on est à un moment où le Goncourt, donc ce prix qui est d'ailleurs doté aussi d'argent, va lui être décerné. Il fait tout pour que ça ne soit pas le cas, parce que il sait très bien qu'on ne peut pas, il est interdit d'avoir le Goncourt deux fois. Donc évidemment le fait d'utiliser un pseudonyme peut être considéré comme un subterfuge pour obtenir une deuxième fois le Goncourt. Moi je crois que il était très emmerdé par ça, que c'était pas un homme spécialement cupide, n'est-ce pas, donc il se retrouve dans une situation où il faut quand même, et la pression avec le Goncourt devient telle qu'il faut trouver une figure, une tête, puisque Émile Ajar n'existe pas, et
absolument,
pour cause, puisque c'est lui aussi qui se cache. Bon, donc il va trouver avec son neveu Paul Pavlovitch, parce que là on voit que c'est toute une histoire de famille, ça reste dans la famille, et donc son neveu, enfin son cousin, qui est défini comme son neveu, mais qui est en fait son cousin, va... Vous voyez, c'est à chaque fois, chez Romain Gary, on a des... Bon, va donner sa figure à Émile Ajar pour qu'il existe.
Absolument.
Mais là, évidemment, c'est ce qui est très drôle dans le film.
Il y a une jeune doctorante qui arrive.
Le modèle qui est choisi, enfin le Paul Pavlovitch qui est choisi, a un petit peu dépassé son rôle, quoi. Enfin, donc ça va entraîner... Mais le talent des scénaristes, c'est d'avoir trouvé cette jeune femme admirablement jouée par Claire de la Rue du Camp de la Comédie Française. Et Claire représente cette. Ils ont pris un personnage qui existe vraiment dans la biographie de Romain Gary, mais qu'ils ont développé, romancé, comme on dit, pour que cette fille, découvre avant tout le monde, avant la mort de Gary finalement, contribuer à cacher le secret, mais va le découvrir, va découvrir que. Elle lit les bouquins d'Émile Ajar, elle lit les bouquins de Romain Gary, elle connaît tellement bien Romain Gary, donc elle va venir voir Romain Gary, elle va dire « Mais il y a Émile Ajar, il vous copie, c'est pas possible !» Alors l'autre, il se marre.
Et l'idée de ce pseudo pour Romain Gary, c'était de se réinventer, puisque vous l'avez rappelé, il était considéré comme un écrivain du passé, quelqu'un de vieillissant, un vieux gaulliste, comme on dit. Est-ce que les acteurs sont confrontés aussi à cette même problématique? Alors, je dis pas que vous êtes un vieux gaulliste, je me permettrai pas, mais est-ce
pourtant,
que vous
m'appelle Charles, n'est-ce pas?
C'est vrai,
c'est pas
et c'est
rien.
Vos parents qui vous ont appelé Charles parce qu'ils étaient fans
alors. C'est Charles de Gaulle,
c'est vrai,
d'ailleurs beaucoup d'affection pour Charles de Gaulle, par Malraux, évidemment, mes parents m'ont transmis. J'aime beaucoup ces gens-là,
absolument.
Avec toutes leurs contradictions, j'ai pu ne pas être d'accord avec certaines de leurs actions.
Mais... est-ce que cette problématique des modes aussi qui passent, qui se succèdent, est, une vraie, est un vrai sujet pour vous, comédien ?
Ah oui, bien sûr. Bah, et puis, quand on est acteur, c'est beaucoup moins le cas au théâtre, parce qu'au théâtre, si vous voulez, c'est le public qui vous renvoie une énergie, et vous, vous envoyez une énergie au public, mais vous n'avez pas une image.
Ouais.
Jamais. Finalement, on ne se voit pas au théâtre.
C'est vrai.
Alors qu'au cinéma, chaque film, chaque... œuvre dans laquelle vous participez vous renvoie votre image et donc c'est comme un portrait de famille où au fur et à mesure les photos vous faites ouais d'accord bon,
on est en 2024 effectivement
on vieillit mais d'ailleurs et Romain Gary le montre bien, c'est-à-dire qu'on peut vieillir et en même temps rester jeune. Enfin au fond je pense que chez Romain Gary il y a comme chez tous les êtres finalement, et moi je le ressens aussi, il y a quelque chose qui commence à devenir un peu problématique parce que on a un corps qui se transforme, qui n'est plus aussi jeune.
Oui.
On voit bien que les limites arrivent, n'est-ce pas ? Et que la pourriture, comme dirait Bergman, arrive dans le corps. Mais en même temps, comme quand on est sur une scène de théâtre, si vous voulez, de l'intérieur, vos yeux sont toujours les mêmes que ceux de l'enfant que vous étiez. Et donc... Ça fait que on ne se rend pas compte qu'on vieillit. On ne se rend pas compte qu'on est vieux. Par exemple, je vous parle à vous qui êtes si jeune, vous me regardez comme un vieux.
Oh non, vous ne les faites pas vos 30 ans, sincèrement.
Et alors justement, vous avez commencé votre carrière au début des années 80. Est-ce que ça a été facile de se faire un nom dans ce monde du théâtre, de la fiction, du cinéma ?
Est-ce que c'est facile ? Parce qu'on peut continuer à parler au présent. Non, c'est jamais facile. Non.
C'est jamais acquis.
Et je comprends si bien Romain Gary, parce que si vous voulez, ce qui pèse dans ce métier, je pense que toutes les actrices, tous les acteurs me comprendront, c'est l'idée qu'on a de vous. Mmh. C'est l'idée qu'on se fait de vous. C'est la réputation que vous avez. Et là, je dois dire que ce que Romain Gary raconte à cet endroit est profondément émouvant, troublant et juste. Mmh. C'est-à-dire qu'on passe son temps quand on est un homme public, à déjouer les pièges de la réputation qu'on veut vous faire. On veut vous enfermer dans une image.
Case,
Et ça, c'est en plus... Donc moi, comme tout le monde, j'en ai souffert, j'en souffre et j'en souffrirai toujours.
Charles Berlinguer, nous recevions sur ce plateau David Kamenos, acteur dans une série également sur France Télévisions. Il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir.
Bonjour Charles, je voudrais connaître ton premier souvenir de jeu.
Est-ce qu'on parle de Monopoly, de Scrabble ? Est-ce qu'on parle de vos jeux, de votre jeu au théâtre ?
Oui, donc, mon premier souvenir de jeu, je devais avoir 13 ans, et si vous voulez, dans les réunions de famille, j'étais un très mauvais élève à l'école, je ne tenais pas en place, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à Maria Montessori, parce que je trouve qu'elle a dit des choses très intéressantes, qu'est-ce que j'avais comme voie pour exister, pour apprendre, pour m'émerveiller, et pour séduire les autres ?
Oui.
Eh bien, j'avais le fait de, comme on dit, de faire l'idiot. Donc, en famille, je pouvais faire des entrées, des sorties, je me mettais un foulard et je faisais tout d'un coup une femme qui vous dit l'avenir, je faisais n'importe quoi pour séduire, pour plaire, pour exister. Et donc, après, plus tard, j'ai compris que, on pouvait faire plus que l'idiot, on pouvait faire plus que faire le malin. On pouvait aussi, on découvre qu'il y a des textes extraordinaires et qu'on peut s'en emparer, qui peuvent vous traverser et que vous pouvez les transmettre. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une nécessité profonde d'exister.
Eh bien voilà, David Kamenos, vous avez votre réponse. Ça va être à votre tour de poser une question à notre invité du lendemain. C'est dans notre dernière rubrique au suivant. Recevrons à votre place sur ce plateau Jimmy Mohamed, qui anime ponctuellement le magazine de la santé sur France 5 et qui surtout sort un livre intitulé « Zéro contrainte pour rester jeune ». Première question déjà, est-ce que l'âge c'est un véritable sujet pour vous ? Est-ce que vous vous regardez tous les matins dans la glace en vous disant « aujourd'hui j'ai pris un jour de plus » ?
Non, pas forcément, non. Mais oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est important et je pense que c'est important.
Vous passerez par la chirurgie esthétique ou pas ?
Comment ?
Vous passerez par la chirurgie esthétique ?
Non.
Non ?
Non, ça ne m'intéresse pas trop. Non, parce que pour l'avoir vu chez d'autres, je trouve que
c'est pas forcément
ça ne réussit
réussi.
Pas aux gens.
je trouve ça
plus beau un corps avec des rides qui vieillit. Ouais. Après, évidemment, aujourd'hui, suivant l'hygiène de vie que vous avez, vous pouvez accélérer ou pas les processus de pourriture. Mais non, je suis content de mes rides.
votre corps, c'est votre outil de travail, vous le voyez en permanence, mais votre voix aussi, c'est un outil de travail, puisque vous chantez, vous avez sorti un album en 2016. Quelle place la musique occupe-t-elle aujourd'hui dans votre vie ? J'ai cru comprendre que vous pourriez peut-être intégrer une comédie musicale.
Oui, j'aimerais bien, oui. Là, c'est en discussion et ça m'intéresse beaucoup de rechanter, parce que j'ai, là aussi, quand je chantais, j'étais victime, on dirait encore un acteur qui chante. Vous voyez, ça, c'est des réactions immédiatement, l'idée reçue. Bah ouais, mais moi, je chantais, peut-être je chantais avant même de faire la comédie, de jouer la comédie, donc bon, c'est ainsi. Mais donc là, d'une perspective de peut-être, là, je préfère pas en parler parce que c'est pas encore.
C'est en discussion encore.
Mais vraiment, ça m'a beaucoup touché et ça me re-attire là.
C'est à votre tour de poser une question à Jimmy Mohamed.
Alors, je vais poser.
C'est celle-ci.
Pour un médecin, je vais vous dire quelque chose et je vais vous demander une réaction, c'est-à-dire Romain Gary est mort. Et il a, à un moment donné, Romain Gary était un être, pour moi, qui restait profondément jeune, même s'il vieillissait. Et d'ailleurs, il s'est tiré une balle pour mettre court lui-même, c'est son choix. Ok, après, on peut le critiquer ou pas, mais c'est son choix, et de toute façon, maintenant, de là où il est, il s'en fout un peu de ce qu'on dit. Mais la question que je voulais vous poser, c'est ce qui me frappe, c'est que Romain Gary, même après sa mort, reste jeune. En tout cas, il côtoie des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes, et dont Maria Pourchet et François-Henri Désérable, l'aiment passionnément. C'est-à-dire que, en fait, on peut rester jeune même après sa mort, et surtout après sa mort. Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup, Charles Berling. L'Enchanteur, c'est ce lundi 12 février en première partie de soirée sur France 2. Bonne journée à toutes et à tous.